Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie.
Et aussi collaborateur scientifique au jardin botanique de Metz. Si vous êtes jamais allé, je vous conseille, c'est un super jardin botanique. Et donc on l'avait invité pour parler de l'intelligence des plantes, parce que c'est un sujet qu'on entend régulièrement, qui est un peu à la mode dans beaucoup de médias depuis quelques années. J'imagine que vous avez dû entendre passer ça. Il y a des documentaires qui sortent, il y a des experts ou pas d'ailleurs qui en parlent sur plusieurs plateaux, télé, radio, etc. Et donc, on va se demander ce soir, est-ce qu'on peut vraiment employer ce mot-là quand on parle des plantes et de toutes les extraordinaires capacités qu'elles ont ? Quentin, c'est à toi.
Ben, je vous remercie pour votre invitation et merci d'être venu un samedi soir pour écouter une conférence. Alors, comme ça a été dit, ces dernières années, il y a eu pas mal d'activités autour de ces comportements végétaux, slash intelligence des plantes, avec des qualités parfois inégales de vulgarisation, voire, on va dire, des choses un peu fumeuses parfois. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples de livres qui sont sortis. Hein. Certains sont très bien. Par exemple, Intelligence des plantes de Stefano Mancuso, qui est un physiologiste végétal, qui montre un peu comment la communauté des biologistes végétaux on réinterprétait toute une série de choses à l'aune des nouvelles découvertes. Et puis, vous avez des choses dont je vous parlerai après, qui sont un peu plus aléatoires. Hein. Il y a le fameux best-seller que vous avez probablement tous vu, La vie secrète des arbres, écrit par un forestier, Peter Volleben, qui était reçu de manière très ambivalente. À la fois, une partie de la communauté scientifique était heureux qu'on parle d'enjeux d'éthique de l'environnement liés à la foresterie, etc. Et puis une autre partie était horrifiée par l'anthropomorphisme qui était utilisé dans ce livre. Et en fait, ça, c'est un des problèmes récurrents qu'on retrouve dans l'historique de l'étude des comportements des plantes et cette fameuse question, est-ce qu'elles seraient intelligentes ou pas ? Et alors, je vous le dis juste en passant, tout récemment, il y a une semaine ou deux, ce livre qui est sorti, Planta Sapiens, par un philosophe de la biologie que je connais, qui s'appelle Paco Calvo. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais étant donné la qualité des articles scientifiques qu'il publie sur le sujet, a priori, je vous le recommande. Bon, après, j'ai moi-même écrit un livre sur le sujet. On pourra y revenir plus tard, si vous voulez. Donc, toujours dans le cadre de cette introduction en lien avec ce que fait aussi le comité Para, et je vous parle de l'origine des controverses scientifiques de façon un peu ludique ici. Bon, c'est une perspective sur la question. Hein. Donc, j'ai sélectionné ici quelques éléments. Tout à gauche, vous avez Dorothy Retallack, dont vous n'avez probablement pas entendu parler, mais qui est en fait une dame qui, en 1973, je pense, s'est dit qu'elle allait faire des études sur la réception de la musique chez les plantes, hein, et ça donnait lieu à la publication de ce livre, The Sound of Music and Plants. Et donc les expériences de Dorothy Retallack visaient à démontrer, en mettant différents styles musicaux aux plantes, que certains pouvaient influencer positivement ou négativement la croissance des plantes. Et alors, ce que Dorothy Retallack a démontré, c'est qu'en réalité, la musique rock était très néfaste pour la croissance des plantes, ça les tuait, tandis que la musique classique avait des vertus incroyables et que donc les plantes poussaient. Et les conclusions de cette brave dame, qui était en fait une fervente conservatrice, était que la musique rock était mauvaise pour les jeunes, parce que ça nuisait évidemment à la croissance selon les preuves biologiques soi-disant irréfutables. Alors évidemment, cette pseudo-expérience ne répondait pas du tout aux standards de la méthodologie scientifique, et comme vous l'avez compris dans la façon dont j'ai présenté le personnage, en fait, il y avait un biais déjà à la base dans la façon dont elle présupposait les résultats auxquels elle voulait arriver, à savoir qu'elle voulait démontré que le rock était mauvais, qu'il fallait l'éliminer de la société, que c'était mauvais pour les jeunes, et donc elle va instrumentaliser les plantes. Bon, de façon consciente, inconsciente, bref, on peut discuter longuement. Le problème, c'est qu'en fait, ça a créé une espèce de nébuleuse autour de ce livre, où parfois on a repris en fait les conclusions de cet article, et vous avez probablement déjà tous entendu parler du fait que mettre de la musique classique aux plantes, ce serait soi-disant bien pour elles. Enfin, je veux dire, c'est un peu un lieu commun quand on parle de ce genre de choses. Et je pense qu'une des origines, en fait, c'est ça, quoi. Mais le problème, c'est que ça a été répété dans d'autres livres de qualité parfois hein, voilà, aussi inégale. Par exemple, un autre qui a marqué les esprits dans les années 70 aussi, je pense que c'est The Secret Life of Plants, qui reprend un peu des idées qui avaient été, voilà, soi-disant démontrées par Retallack, mais de nouveau sans trop d'esprit critique autour. Et puis alors après, il y a eu un autre livre dans le même acabit, mais encore plus... fantasque, on pourrait dire, qui a été écrit par Cliff Baxter, qui est un ex-agent de la CIA, qui s'est dit un jour « Ah, mais en fait, je vais utiliser un détecteur de mensonges, le polygraphe, que je vais raccorder à mes plantes d'appartement, et en fait, ah, mais j'observe des trucs. » Et du coup, je me dis qu'il doit y avoir une sensibilité incroyable des plantes. Hein, donc, je vais étudier ça plus en détail. Et donc, il crée son propre protocole, enfin, appelons-le comme ça, de scientifique qui vise à accorder une plante à ce détecteur de mensonges et à lui faire subir toutes sortes de choses. Et alors, il constate que quand il est bouillant des crevettes en présence de la plante qui est raccordée au détecteur, la plante réagit. Il y aurait donc une espèce de, selon ce terme, de relation un peu télépathique grâce à des ondes qu'on a du mal à percevoir mais que le détecteur mettrait en évidence, qui permettrait donc à ces plantes de détecter l'influence malveillante de l'expérimentateur à l'égard d'un autre être vivant. Et donc ça démontrerait qu'en fait, les plantes sont plus que sensibles, elles ont même une intelligence émotionnelle, hein, d'où le titre du livre. Alors, comme vous vous en doutez, la communauté scientifique a été pour le moins intriguée par ce type d'expérience, parce que ça a été un best-seller, donc ça a fait beaucoup de bruit à l'époque, mais n'a évidemment jamais pu reproduire les résultats dans des conditions, on va dire, normales, d'études. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un gros passif autour de ces expérimentations sur les comportements des plantes et la façon dont on peut les qualifier d'intelligentes ou pas et qu'est-ce qu'on met derrière là-dessus. Et donc il y a eu une réaction de la communauté scientifique, comme je vous l'ai dit, qui a remis en question ces résultats évidemment puisqu'ils étaient non reproductibles. Mais le problème c'est que ça a eu pour conséquence aussi de rendre les physiologistes du végétal très frileux par rapport à ces questions de sensibilité et de comportement des plantes qui pouvaient être légitimement étudiées d'un point de vue physiologique. En outre, c'est quelque chose qui appartient un peu à la beauté de la curiosité scientifique et qui est donc très peu financé puisque la plupart de la biologie végétale est directement liée à l'agronomie, donc en fait à des enjeux économiques. Donc, peu de scientifiques s'intéressaient à ça, il y a peu de moyens aussi qui sont alloués à ce genre de recherche, et en plus c'était quand même assez mal perçu du point de vue de la communauté scientifique. Donc il y a une espèce de censure autour de ces questions qui a duré assez longtemps, et on peut se demander où on en est aujourd'hui, puisqu'il y a quand même eu des choses qui ont été faites et qui se sont débloquées. Hein. Et dès les années 70, j'y reviendrai, on a mis en évidence des formes de sensibilité des plantes auxquelles on ne pensait pas, et on a mis aussi en évidence les mécanismes, etc. Bien qu'on savait déjà au 19e siècle hein, qu'il y avait toutes sortes de stimuli auxquels les plantes étaient sensibles, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, bon, après cette introduction un peu copieuse, je vous présente le plan de ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui. Donc déjà, on va voir qu'est-ce que c'est une plante, hein, vraiment de façon très basique du point de vue de la biologie contemporaine. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on peut entendre d'un point de vue philosophique par l'intelligence et comment elle pourrait ou non s'appliquer aux plantes. Et puis, si on a un peu le temps, développer les enjeux sous-jacents de ces questions, puisqu'ils ne sont pas uniquement liés, comme je disais, à une espèce de curiosité biologique, mais il y a des enjeux éthiques, écologiques, voire... politique au sens très, très large du terme, hein, dans le rapport qu'on a aux autres êtres vivants. Et tout ça, évidemment, possible grâce à une attitude critique et sceptique de la philosophie. Alors, qu'est-ce qu'une plante ? Bon, hein, je vous donne un panorama visuel, c'est un peu plus facile. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais ici, c'est une représentation un peu phylogénétique, donc du point de vue de l'évolution, de tout ce qui regroupe un peu le règne végétal, qui va des algues unicellulaires jusqu'aux algues multicellulaires, les mousses, les anthocérotes, les fougères, les conifères, puis les plantes à fleurs. Bon, ça suit un peu un panorama évolutif. Donc, en fait, il y a une très grande diversité du monde végétal. Ce qui les réunit tous, c'est, d'un point de vue métabolique, la capacité à faire de la photosynthèse. Bon, après, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des types d'algues qui ne sont pas dans la même lignée évolutive, etc. Mais bon, pour faire simple, on va dire que si on doit opposer, comme ça se fait historiquement, le monde animal au monde végétal, ce qu'on peut retenir quand même d'un point de vue scientifique, c'est plutôt cette capacité métabolique à l'autotrophie, donc à pouvoir créer soi-même les ressources nutritives dont on en a besoin, juste avec la lumière du soleil et des composés minéraux, quoi. Ce qu'un animal ne peut pas faire, puisqu'il lui doit ingérer d'autres composés organiques qui ont déjà été transformés par des bactéries ou par la photosynthèse, donc par des plantes, en gros. Alors, il y a une grande diversité, comme je vous l'ai montré sur la dia précédente, mais le fait est que la plupart des études scientifiques, et plus singulièrement encore celles qui se concentrent sur la sensibilité des questions de comportement, se limitent très souvent aux plantes à fleurs, aux arbres, quoi. Donc aux végétaux qui représentent quand même une bonne partie et qui sont ceux avec lesquels on est les plus familiers. Donc déjà là aussi, il peut y avoir un certain biais quand on généralise certaines idées au niveau de ce dont sont capables des plantes en laboratoire, parce que c'est principalement un type de plante. Bon, après, ça reste significatif, c'est intéressant quand même, mais il faut être conscient aussi qu'on fait très peu d'expériences au niveau du comportement des algues, hein, par exemple. Même s'il y a des choses qui se font, hein, même sur les bactéries, etc. On pourra aussi y revenir si vous voulez. Alors, on peut se demander de façon générale à quel stimuli de son environnement une plante est sensible, c'est ce que je vais vous expliquer après. Et déjà là, il y a un petit problème de vocabulaire qui peut se poser quand on parle de ces choses-là dans un contexte au grand public, qui est que parfois sensibilité, ça fait directement penser aux gens à sensibilité, émotion, etc. Donc non, ici on est plutôt dans l'ordre de la sensibilité biologique, donc c'est-à-dire la réaction au stimuli, quoi. Alors ensuite, la sensibilité du monde végétal, comme celle de bactéries, par exemple, ça n'implique pas nécessairement un système nerveux ou de la douleur. Donc ça, c'est un autre un peu piège du vocabulaire dans lequel on peut tomber facilement. La sensibilité chez les végétaux, elle se décline de deux grandes façons. C'est l'étropisme et l'énastie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça et si vous avez une idée de la différence. Pardon ? Ben, en fait, c'est très proche. Donc, l'anastie, c'est un mouvement de réaction par rapport à un stimulus de l'environnement. Tandis que l'eutropisme, c'est la même chose. C'est, là, à une exception près, c'est la réaction à un stimulus de son environnement grâce à un mouvement qui est orienté par rapport à la source du stimulus. Donc, je vais vous donner des exemples un peu plus tard. Alors, premier grand élément qui est connu depuis le 19e siècle, c'est le phototropisme. C'est le fait que toutes les plantes sont excessivement réactives à la lumière et qu'elles suivent évidemment l'orientation du stimulus lumineux. C'est pour ça que c'est un tropisme. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a aussi du photopériodisme qui permet notamment la régulation des rythmes circadiens et des processus biologiques et que ces rythmes circadiens, donc qui sont liés à l'alternance du jour et de la nuit, et d'une phase de veille et de sommeil, ils peuvent être modifiés en fonction des modifications de l'environnement, et en laboratoire on peut les modifier, et ça on sait depuis le 19e siècle. Et donc c'est assez intéressant parce que ça veut dire que les plantes sont capables d'apprendre dans une certaine mesure à modifier le type de mouvement qu'elles exécutent, et qu'elles ont une forme d'apprentissage. Parce qu'en fait, vous voyez, au début, bon, la plante suit, admettons, la course du soleil, hein, ou de la source lumineuse ici. Et puis, quand elle arrive à la fin de la journée, c'est la nuit, en fait, elle se remet en position initiale. Donc, ça, elle le fait en l'absence du stimulus, quoi. Parce que en réalité, elle a intégré un rythme et qu'elle anticipe le lever du soleil qui va se faire toujours du même côté a priori. Par contre, si en laboratoire vous inversez le sens du entre guillemets lever du soleil, la plante pendant un certain temps elle va garder le rythme qu'elle avait, mais après elle va le modifier et donc elle va inverser son mouvement. Donc c'est-à-dire qu'elle est capable d'une forme d'apprentissage et d'une forme de mémoire. Donc elle a mémorisé ou elle a toujours vécu avec le rythme circadien, on va dire naturel, du lever du soleil par rapport à l'endroit où elle a poussé. Puis si on le modifie en laboratoire, elle l'a gardé en mémoire pendant un certain temps et puis elle va apprendre des nouvelles conditions de son environnement, elle va le modifier. Et ça, c'est assez troublant pour les biologistes déjà du 19e siècle, parce que ça veut dire qu'une plante est capable d'une forme de mémoire. Or, c'est quelque chose qui est lié normalement à un cerveau, donc ça ne rentre pas du tout dans les cadres épistémologiques de l'époque. Si on s'en tient toujours à ce que c'est une plante et ce dont elle est capable, elle est aussi capable de mouvement. Ici, c'est une plante qui s'appelle Cadariocalyx motorium, anciennement Desmodium gyrans, qui est intéressante parce qu'elle est capable de nastie. Et donc là, c'est des mouvements assez rapides qui dépendent simplement de l'activité normale de la plante. Donc toutes les plantes ne sont pas immobiles et passives comme on pourrait faussement le croire. C'est plus une fausse conception en fait, qui est héritée historiquement qu'on a. Alors, les plantes sont évidemment, comme je vous l'ai dit, sensibles à la lumière grâce au mouvement, comme je vous l'ai montré, au phototropisme, etc., au mouvement circadien, mais elles sont aussi capables de distinguer très finement la direction, mais aussi l'intensité. Pour ne pas être brûlées, elles orientent leurs feuilles, etc., ou bien pour capter plus de lumière, mais aussi à la couleur qui est de la lumière, qui est très importante pour la photosynthèse et pour aussi toute la régulation de toutes sortes d'activités métaboliques, puisque la longueur d'onde de la lumière donne des informations sur la longueur des jours, si on est dans des journées plutôt d'automne, de printemps, etc. Donc ça, en fait, c'est très important. Par contre, contrairement à un œil animal, qui est aussi capable de discriminer la couleur, l'intensité, etc., elles ne sont pas, a priori, capables de détecter les formes. Grâce à la réception de la lumière. Mais il y a quand même des cas particuliers qui sont intéressants, donc je vous le dis parce que voilà, on est là pour discuter. Il y a par exemple une plante qui s'appelle Bocchilia trifoliata, qui est une liane qui grimpe sur d'autres plantes et qui imite la forme de ses feuilles. Et ça, c'est pas inné. Donc cette plante, en fonction du support qu'elle adopte, elle va modifier la forme de ses feuilles, même si elle grimpe sur plusieurs plantes à la fois. Donc une même plante peut avoir plusieurs types de feuilles. Et donc ça, c'est tous les exemples de feuilles qu'elle peut imiter, avec chaque fois l'original et la copie, quoi. Donc c'est assez impressionnant, et on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Alors il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, c'est qu'elle aurait une espèce de proto-œil au niveau cellulaire, comme certaines bactéries. Une autre hypothèse, c'est qu'elle fonctionnerait grâce à des composés volatiles, organiques volatiles. Donc, elle détecterait la signature chimique de la plante hôte, qui lui permettrait d'imiter la forme de sa feuille. Donc, il y a plein de choses intéressantes qui restent à découvrir. Alors, au niveau de la sensibilité chimique, comme je l'évoquais, il y a des choses qui sont aussi connues. Par exemple, le fait que les composés organiques volatiles servent à, dans une certaine mesure, entre guillemets, communiquer entre différentes plantes. C'est un exemple qui est très connu si vous êtes un peu familier de la littérature sur le sujet, qui est souvent relayé, qui est celui des koudou et des acacias. Et donc, comment ça se passe? Mais en gros, vous avez dans une réserve australienne, je pense, des espèces d'antilopes, les koudou, qui sont retrouvés morts. On ne sait pas pourquoi, et on les autopsie, et on voit qu'en fait, ils ont des tanins qu'ils n'ont pas réussi à digérer, donc ils sont morts empoisonnés par des feuilles d'acacia. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les acacias, quand ils sont broutés, ils émettent une molécule volatile qui s'appelle l'éthylène, qui a pour effet de signaler à l'ensemble du feuillage qu'il y a une attaque, et que donc il y a en conséquence une production de tanins qui vise à empêcher l'herbivore de continuer à manger les feuilles, puisque le tanin est indigeste, voire toxique. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que normalement, l'herbivore commence à manger, puis ça a un goût amer, il arrête de manger et va vers une autre plante. Le fait est que l'éthylène est volatile, donc quand par exemple une partie du feuillage est attaquée, ben, le reste du feuillage est en alerte. Mais s'il y a du vent, le message est véhiculé vers les autres acacias. Et donc, avant même d'être soumis à l'attaque du prédateur, ils peuvent déjà être en alerte et éviter d'être broutés. Or, ce qui se passe ici, c'est que comme la réserve est clôturée et qu'il y a des acacias un peu partout, ben, il y en a toujours bien un qui émet de l'éthylène. Et s'il y a un peu de vent ou de circulation de l'air, ben, tous sont tout le temps en alerte. Donc, ils fabriquent tous du tanin tout le temps. Et donc, les antilopes, normalement, vont plus loin. Mais vu que là, elles ne peuvent pas aller plus loin, eh ben, elles continuent à manger les feuilles, elles s'empoisonnent, elles meurent, quoi. Donc, c'est intéressant parce que ça a mis en évidence le fait que les plantes, entre guillemets, pouvaient communiquer entre elles des messages très simples comme un message d'alerte. Alors, évidemment, il n'y a pas forcément d'intentionnalité. Et donc, ça pose la question de savoir est-ce que c'est quand même de la communication ou pas. Bon, moi, j'ai mes propres hypothèses là-dessus. On pourra revenir là-dessus aussi. La sensibilité chimique, elle se manifeste aussi entre différentes espèces. Ce n'est pas forcément, par exemple, des acacias. Il y a des éléments de symbiose qui fonctionnent grâce aussi à ces fameux composés volatiles. Ça peut être aussi des composés chimiques qui sont diffusés dans le sol. Par exemple, ici, vous avez le théosine, qui est, entre guillemets, l'ancêtre du maïs, qui est capable de sécréter une molécule au niveau de ses racines qui attire le prédateur naturel d'une larve qui mange ses racines. Donc ce sont des nématodes, les petits vers là, qui vont aller dévorer la larve. Alors, autre capacité qu'on retrouve dans le règne végétal, c'est le gravitropisme qui est très important, donc la sensibilité à la gravité, qui permet par exemple à une plante de se redresser quand elle a été couchée. Et elle peut être très très sensible à des modifications de l'inclinaison. Alors, pour ce qui est de la sensibilité au son, vous pourriez vous dire, bah, en fait, ouais, c'est avec ces questions de musique et tout, c'est quand même un terrain séminé. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été étudié pendant longtemps, mais en fait, récemment, on a mis en évidence qu'il y avait bel et bien une sensibilité au son. Parce qu'avant de se demander est-ce qu'une plante pousse mieux quand elle écoute de la musique, il faut commencer par se demander si elle est sensible ou pas au son. Et là, on s'est rendu compte que certaines plantes, par exemple du genre Heliomphora, qui est une plante carnivore, étaient capables de détecter la présence de pollinisateurs grâce à la longueur d'onde, la vibration de leurs ailes. D'autres plantes sont capables de faire ça et ça a pour conséquence de libérer plus de nectar ou bien un nectar plus sucré en présence du bourdonnement de l'insecte. Alors il y a d'autres études qui montreraient qu'il y a une influence du son sur la germination, mais on ne sait pas trop bien pourquoi ni comment ça fonctionne. Et alors il y a aussi des études, mais qui sont là pour le coup plus controversées, qui tendraient à indiquer, mais bon là je dis avec précaution, que les plantes pourraient aussi avoir des facultés de communication en émettant des sons, des clics. Mais d'autres scientifiques disent non, ça, c'est juste des sons qui sont contingents, qui sont liés à la cavitation dans le système vasculaire, etc. Donc, ce serait pas vraiment, y aurait pas une sélection naturelle de ce type de sons en vertu de qualité communicationnelle. Donc là, c'est bon, voilà, c'est encore autre chose, quoi. Alors, la sensibilité au toucher, qui a été déniée pendant très très longtemps aux plantes, hein, ben, une plante est censée être insensible, elle ne sent pas quand on la touche, en fait, est fausse. Alors, il y a des exemples qui sont connus depuis le XVIIe siècle, hein, de plantes carnivores, où on voit bien que quand il y a un insecte qui la touche, ben, qui la stimule à un certain endroit, elle est capable de se refermer dessus, mais on les voyait plutôt comme des exceptions. Bon, il y a une plante aquatique qui est capable de faire la même chose. Sachez que ça existe même chez certaines plantes aquatiques. Voilà. Donc ça, c'est une nastie. Parce que c'est une tigmonastie. Donc il n'y a pas d'orientation du mouvement, quoi. Le piège est ouvert ou il est fermé, en gros. Mais vous avez la même chose, tigmotropisme, où il y a une orientation en fonction du stimuli. Donc en gros, la plante détecte l'insecte et oriente son mouvement en conséquence. un petit moustique qui arrive sur la Drosera. Miam, miam. Et hop, et après, toute la feuille, en fait, se recourbe pour l'engluer complètement et le digérer grâce à des enzymes qui sont sécrétées au niveau des glandes. Donc, il y a de la colle au bout des petits appendices. Et puis après, l'insecte est digéré. Au niveau de la sensibilité au toucher, il y a aussi tout ce qui concerne le thygmotropisme des plantes grimpantes. Donc, c'est leur capacité à s'accrocher à leur support, enfin, à détecter le support, à s'orienter vers le support et à s'y accrocher. Et ce qui est très intéressant, c'est que, bon, ben, vous avez tous vu des plantes grimpantes, là, c'est en mouvement accéléré, évidemment, mais si vous voyez en mouvement accéléré, ça donne quand même l'impression que la plante vraiment cherche, elle tâtonne. C'est pas des mouvements qui sont aléatoires, quoi. Alors, ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'il y a des études récentes qui indiquent qu'en présence d'un support, le mouvement de nutation, donc de mouvement de rotation, est différent dans l'absence de support. Et ce, même avec un éclairage zénithal, donc ce n'est pas l'ombre qui est détectée. C'est de la matière inorganique, donc ce n'est pas non plus ces fameux composés volatiles. Donc en fait, on ne sait pas comment ça se fait que certaines plantes grimpantes qu'on a testées sont capables de détecter à distance qu'il y a un support ou pas de support. Quoi. Donc il y a encore plein de choses intéressantes à découvrir. Alors il y a une plante qui est très connue pour ses mouvements, c'est la sensitive, la Mimosa pudica. Pareil, elle est connue depuis le 18e siècle. Elle était, ou même 17e, elle a été ramenée d'Amérique. Mais c'était vu un peu comme l'espèce de chaînon manquant là, entre le règne animal et végétal. Et donc, on voyait ça vraiment comme une exception. Mais en fait, ces plantes ont le mérite de mettre en évidence le fait que toutes les plantes, finalement, sont sensibles au toucher. Ici, c'est particulièrement spectaculaire. Mais dans les années 70, quand on a commencé à étudier le thygmotropisme, on s'est rendu compte que le toucher avait une influence sur toutes les plantes. Donc même quand vous touchez une plante d'intérieur, etc., il y a des réactions moléculaires qui se passent. Ça ne se voit pas, comme avec une plante carnivore ou une sensitive, mais ça a une influence sur le métabolisme de la plante. Donc ça, c'est intéressant. Alors il y a aussi une vieille question qui date d'Aristote, par exemple, qui considérait que les plantes n'avaient pas l'alternance de veille et de sommeil, qui était reprise par Linné. Et qui a ensuite été étudié plus récemment, qui a mis en évidence qu'il y avait une nyctinastie, donc un mouvement lié à l'état de sommeil en fait, des plantes. Enfin, sommeil de nouveau, en tout cas à l'alternance du jour et de la nuit. Donc vous avez des plantes comme l'oxalis, chez qui c'est particulièrement visible. En fait, vous voyez, la nuit, les feuilles se replient, et le jour, ben, elles sont déployées. Alors on pense que c'est pour optimiser la photosynthèse la journée et éviter les prédateurs la nuit, quand il n'y a pas de raison d'avoir les feuilles déployées. Mais bon, tout ça, ce sont évidemment des hypothèses. Et globalement, ici, de nouveau, c'est un cas spectaculaire chez l'oxalis, vous voyez très nettement, d'ailleurs, si vous en avez chez vous, vous pouvez le voir, mais toutes les plantes sont influencées par des alternances métaboliques entre le jour et la nuit. Alors, maintenant qu'on a vu tout ce qui concernait la sensibilité des plantes et l'état actuel de nos connaissances biologiques sur le sujet, on peut se demander comment on peut définir ce comportement, cette sensibilité, voire cette peut-être forme d'intelligence qu'il y aurait dans le règne végétal, et quelles sont les limites de ce vocabulaire. Donc, si on veut s'interroger sur l'intelligence, en fait, il faut d'abord commencer par s'interroger sur le comportement, puisque, en fait, faire preuve d'intelligence, c'est faire preuve d'un certain type de comportement qui serait dit intelligent. Et le comportement, de façon biologique très générale, en fait, peut être défini comme ce qu'un animal ou une plante fait au cours de sa vie en réponse à un événement ou à un changement dans son environnement. Donc, c'est en fait une activité, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la passivité, mais qui est de l'ordre du traitement de l'information à partir de stimulus de l'environnement qui sont reçus, qui sont analysés, et puis qui vont donner lieu à une réponse qui doit être observable par le scientifique. Et ça, c'est la définition générale d'un comportement. Alors, la manifestation observable de ce comportement, ça peut être un mouvement, Ici, je vous ai donné pas mal d'exemples qui sont les plus faciles du coup à étudier, mais ça peut être aussi des changements internes au niveau chimique, moléculaire, etc. Alors, évidemment, si une plante réagit, c'est qu'elle est sensible. Après, on peut s'interroger sur la nature de cette sensibilité, mais ça, c'est encore autre chose. Évidemment, si une plante a un comportement, ça n'implique pas que ce comportement soit de la même nature que le comportement d'un animal ou d'un humain. Peut-être qu'il y a des recoupements, évidemment, puisque finalement, d'un point de vue évolutif, il y a une ascendance commune et il y a des caractéristiques physiologiques qu'on partage. Mais ce n'est pas évident que parce qu'une plante est sensible, nécessairement, elle est consciente ou elle est intelligente. Donc, il faut voir jusqu'où on peut aller et pourquoi et comment. Évidemment, sensibilité, comme je viens de le dire, ça n'implique pas nécessairement la conscience ou même la représentation de la sensation. Une plante est sensible, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est consciente de ce à quoi elle est sensible. Bon, ça, c'est des débats un peu techniques en philo, mais on peut revenir là-dessus aussi. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que vraiment la différence fondamentale entre ce qui est doté d'un comportement en tant qu'être vivant et ce qui n'est pas, par exemple un caillou, c'est le fait qu'une pierre est justement pas sensible et qu'elle ne traite pas de l'information. Donc une pierre peut sembler faire des choses, mais en fait, c'est simplement par réaction physique. Il n'y a pas une médiation biologique, il n'y a pas une sensibilité. Donc c'est plutôt des conséquences, on va dire, passives. Si vous jetez dans la pierre, elle va rouler. Si vous jetez dans une plante, il va se passer des trucs au niveau de la façon dont elle va interpréter ce qui lui arrive. Donc là, il y a une interface, et c'est ça qui donne lieu à un comportement. Et c'est aussi ça, je pense, qui fait une des différences fondamentales entre le monde vivant et le monde inerte. Et puis là, il y a toutes sortes de débats aussi sur le statut de la machine, qui est un peu un cas limite, puisque dans une certaine mesure, elle a des senseurs, elle détecte ce qui lui arrive, mais elle traite de l'information, mais elle n'est pas vivante, du coup, voilà. Alors, quand on s'intéresse plus singulièrement à la question de l'intelligence, en fait, on se rend compte qu'il y a déjà plusieurs définitions de l'intelligence. C'est un concept qui est très polysémique dans la tradition philosophique et psychologique. Mais globalement, la réception qu'on en a est assez anthropomorphique. Ici, j'ai fait une recherche Google d'images pour le terme intelligence, et vous voyez qu'on tombe sur des images de cerveau, de tête humaine. Donc en gros, l'intelligence dans notre tradition philosophique est quand même très très fortement liée à une représentation d'une faculté humaine. Parce que c'est quelque chose qui est associé au cerveau, à une faculté rationnelle, l'esprit, etc., ce qui se passe qui se passerait dans la tête d'un humain. Bon, déjà, quand on s'intéresse à la psychologie, on voit que l'intelligence est beaucoup plus polysémique ce qu'on pourrait croire. Et donc ici, c'est un schéma des 9 types d'intelligence de la théorie du psychologue Gardner qui nous montre qu'en fait, on pouvait avoir de l'intelligence visuelle ou spatiale, naturaliste, musicale, logico-mathématique, existentielle, interpersonnelle, corporelle, verbale, et c'est à chaque fois en fait des facultés différentes qui sont mises en place. Donc c'est quelque chose d'assez multiple. Alors, qu'est-ce que les biologistes qui étudient les plantes et qui ont écrit sur le sujet nous disent de ce que serait l'intelligence des plantes? Alors, pour Stefano Mancuso, je vous parlais en introduction, l'intelligence appliquée aux plantes, ce serait de façon très générale, je cite, « la capacité à résoudre des problèmes de la vie ». Et donc, une plante serait intelligente parce qu'elle lui arrive des choses et finalement, elle est capable de s'en sortir, elle résout des problèmes. En fait, cette définition est évidemment très, très générale. Et on peut la raffiner un peu, ce que fait un autre physiologiste du végétal qui s'appelle Anthony Trewavas, que je cite maintenant, qui nous dit « l'intelligence mesure la capacité d'un agent à atteindre des objectifs dans une large série d'environnements. Des caractéristiques comme l'aptitude à apprendre et à s'adapter ou à comprendre sont implicites dans cette définition, dans la mesure où elles rendent capable un agent de réussir dans une large série d'environnements. » Donc ici, la définition est déjà plus précise, parce qu'il ne s'agit pas seulement de résoudre des problèmes de façon générale, mais il s'agit de résoudre des problèmes de son environnement en s'adaptant grâce à des facultés d'apprentissage, de mémoire. Donc en fait, des facultés qui sont déjà beaucoup plus précises, objectivables, qu'on peut tester. Et donc, au vu de ce qu'on sait, de ce que font les plantes que je vous ai évoquées, de cette définition, on peut se demander dans quelle mesure il peut avoir un recouvrement avec ce que ferait par exemple l'intelligence humaine à travers ces différentes facultés. Et on peut évidemment, et alors déjà, éliminer toutes sortes de choses. Donc une plante n'a pas une intelligence naturaliste, hein, donc elle n'est pas capable de faire des classifications naturalistes comme le ferait un biologiste. A priori, elle n'a pas d'intelligence musicale, hein. Même si on peut se dire, bon voilà, vu la perception du son, il y a peut-être un sens du rythme, mais bon, c'est quand même un peu, voilà, c'est pas vers là qu'il faut aller. Pareil, l'intelligence logico-mathématique, c'est aussi très peu probable parce que ça nécessite la représentation mentale, l'usage de concepts, donc en fait une forme d'intelligence abstraite. Donc, bon, probablement pas. Une intelligence existentielle, bon, finalement, on doute que les plantes philosophes, puisque pour ça, il faut aussi, a priori, avoir une forme de conscience. Par contre, peut-être, au niveau des facultés de communication, on peut retrouver quelque chose qui s'apparenterait à une forme d'intelligence interpersonnelle. Ben, c'est un sens très large, évidemment. Peut-être plus probablement encore d'intelligence corporelle, hein, voire verbale, mais ici, je mets verbale avec des gros guillemets, parce que ce n'est pas à travers l'usage du langage, mais de nouveau à travers aux facultés de communication très élémentaires. Et alors, pareil pour visuel ou spatial, puisqu'on voit grâce à la faculté d'une très grande sensibilité à la lumière et de la gestion de l'environnement spatial, des formes d'adaptation intéressantes. Donc, pour les biologistes qui prétendent appliquer, on va dire sérieusement, le concept d'intelligence aux plantes, l'intelligence d'une plante, ce serait le comportement variable et adaptatif de l'organisme par rapport à son environnement. Et ça, ça présuppose, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en citant Trey Wawas, des capacités comme la mémoire et l'apprentissage. Donc des facultés qu'on doit pouvoir objectiver d'une manière ou d'une autre. Et pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, ben, par rapport aux détracteurs qui disent, bon, ben, finalement, si vous dites que les plantes sont intelligentes, pourquoi pas les cailloux et les étoiles aussi ? Ben là, on peut opposer le fait qu'un caillou, justement, il subit son environnement totalement, tandis qu'une plante, ou même, dans une certaine mesure, une machine, peut être capable de s'y adapter. Mais bon, la plupart des machines, en tout cas, elles exécutent simplement un programme. Mais elles ne sont pas capables de s'adapter et d'apprendre, même si, bon, il y a certaines machines, maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, qui, dans une certaine mesure, en sont capables, ça reste quand même plutôt l'exception. Alors, il y a évidemment, dans les controverses, toute une série d'auteurs qui cherchent à, du coup, ramener le monde végétal du côté de la machine, en disant, ben, en fait, si les plantes ont l'air d'être intelligentes, c'est simplement comme les machines, parce qu'elles exécutent leur programme génétique. En réalité, bon, je pense que la vérité plus subtil, et il y a toutes sortes de raisons philosophiques qui permettent d'analyser pourquoi on cherche à rabattre en fait le monde végétal sur le modèle entre guillemets plus simple de celui de la machine. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là parce que c'est tout un historique qui nous emmènera un peu loin, mais en gros, ces débats sont absolument pas neutres du point de vue de notre histoire et de notre tradition philosophique. Finalement, ce qu'on peut en retenir, c'est que pour les biologistes du végétal qui sont des défenseurs de cette conception de l'intelligence des plantes, être intelligent, c'est s'adapter, et s'adapter, c'est avant tout apprendre. Alors, ça ne veut pas dire que toute adaptation est pour autant le résultat d'un apprentissage, puisque dans les phénomènes de l'évolution, vous avez énormément de choses qui passent par la sélection naturelle et qui ne sont pas liées à, directement à l'expérience d'un individu. Donc, en fait, vous avez dans la dynamique de l'évolution des variations aléatoires qui permettent des adaptations nouvelles de certains organismes qui sont hérités en fait à la naissance. Ça donne lieu à une sélection en fonction de l'environnement plus ou moins favorable en interaction avec cette modification, qui, si elle est favorable, va être favorisée au niveau de la survie de l'individu et donc de la transmission héréditaire. Et ça, ça donne lieu à des formes d'adaptation au fur et à mesure des générations. Mais ce n'est pas de l'apprentissage, c'est simplement hérité à la naissance, quoi. Donc en fait, ce type de mécanisme-là, à mon sens, ne devrait pas être qualifié d'intelligence puisqu'il n'implique pas directement une capacité de l'organisme à réagir directement au niveau de son comportement dans son environnement, elle est simplement héritée. Mais même si la plupart des comportements végétaux et peut-être même animaux et peut-être même humains finalement sont innés, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous préalablement déterminés, comme certains qui veulent vraiment défendre une conception strictement programmatique ou machinique du monde végétal voudraient le défendre. Il y a aussi des comportements des végétaux qui sont liés à des formes d'apprentissage au cours de leur vie. Donc ça, c'est aussi des recherches récentes qui le montrent. Et donc, par opposition à une adaptation qui est innée ou héritée à la naissance, un apprentissage, lui, doit, comme je le disais, résulter de l'expérience de l'organisme par rapport à son environnement, en s'y adaptant activement. Et ce serait ça, à mon sens, qui pourrait être qualifié d'intelligence des plantes, et ça passe par des processus de décision, de choix, etc., qu'on peut mettre en évidence dans certaines situations, y compris chez les plantes. Si on veut défendre que les plantes sont intelligentes, ben, il faut pouvoir mettre en évidence ces facultés-là, hein, donc à commencer par l'apprentissage s'il existe, mais ça peut être aussi d'autres formes de facultés qui entrent dans ce que communément on appelle l'intelligence chez les humains. Donc ça peut être aussi lié à l'étude de formes de communication, de discrimination, d'exploration, etc. Ici, je vais me centrer plutôt sur l'apprentissage, qui est quand même la plus généralement retenue, la faculté la plus généralement retenue comme étant déterminante pour pouvoir parler d'intelligence. Et en fait, l'apprentissage, ça présuppose une mémoire. Et en réalité, tous les êtres vivants ont une mémoire, même s'ils n'ont pas de cerveau. Et ça, c'est ce que je vous évoquais déjà avec le phototropisme et qu'on a observé dès le 19e siècle sans pouvoir vraiment savoir comment interpréter ça, puisqu'on n'avait pas les moyens d'étudier les mécanismes sous-jacents. Chez les animaux, c'était assez clair qu'il y avait un système nerveux, un cerveau qui permettait d'expliquer la mémoire. Chez les végétaux, bon, on ne savait pas. Bon, il y avait des hypothèses, hein, évidemment, mais c'est plutôt récemment qu'on s'est penché sur ces questions. Du point de vue du behaviorisme qui étudiait le comportement animal, l'apprentissage biologique va se décliner selon deux formes principales. Des formes de conditionnement qui peuvent être observées, hein, qu'on a mis en évidence chez des animaux comme les rats, etc., qui sont soit s'habituer à un stimuli qu'on va rechercher, ou alors éviter un stimuli qui est plutôt négatif. Et donc ça, c'est deux types de conditionnement qu'on peut provoquer chez des animaux. En gros, si vous mettez un rat dans une cage avec un bouton rouge qui lui envoie des décharges électriques, bah, il va apprendre à ne pas appuyer sur le bouton rouge parce que c'est quelque chose qu'il veut éviter. Et s'il y a un bouton vert qui lui donne de la nourriture, bah, là, il va avoir un renforcement, il va avoir tendance à apprendre à appuyer sur le bouton vert et inversement à éviter d'appuyer sur le bouton rouge. Donc, on peut se demander si il y a le même type de phénomènes qui sont observables chez les végétaux. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau moléculaire, il y a des études scientifiques qui ont démontré que quand une plante subit, par exemple, pour la première fois une attaque d'insectes ou de pathogènes, elle va mettre, ou encore un choc de froid, par exemple, elle va mettre plus de temps à identifier la menace et réagir. Par contre, si elle a déjà subi une ou deux ou plusieurs fois le même type de menace, elle aura en quelque sorte appris à se défendre de façon plus efficace et plus rapide. Et donc, ça, on a pu le mettre en évidence au niveau moléculaire. Cette réaction qui est apprise, elle est gardée en mémoire au niveau cellulaire pendant un certain laps de temps qui peut être parfois de quelques semaines, quelques mois. Pour les arbres, on pense que ça peut même éventuellement durer plusieurs années. Et donc, en fait, lors d'une attaque ultérieure, même parfois loin dans le temps, la plante va réagir plus efficacement. Par contre, ce qui est plus intéressant pour certains scientifiques qui veulent défendre une espèce d'éthologie végétale, ce serait de voir si on peut directement apprendre des choses qui n'ont pas forcément de pertinence directement biologique par rapport à l'environnement direct de la plante. Et donc, c'est ce que Monica Gagliano et son équipe ont fait dès 2014 en se demandant est-ce qu'on peut entraîner des sensitives à fermer leur foliole ou plutôt à inhiber la fermeture de leur foliole en les entraînant à inhiber la réaction par rapport à un stimulus qui n'est pas nocif pour elles. Donc en fait, ce que fait l'expérience, c'est que normalement, la sensitive ferme ses feuilles a priori parce qu'il y a un prédateur, un danger ou quelque chose dont elle doit se protéger. Ici, ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont testé une partie des sensitives en les mettant dans des pots qui sont soumis à des chocs qu'on lâche de façon répétée. Et il y a un moment, l'hypothèse, c'est que, à force de subir des chocs qui ne sont pas vraiment suivie de conséquences négatives pour la plante, la plante va apprendre à inhiber en fait le choc et elle ne va plus fermer ses feuilles à chaque fois qu'on lui inflige le choc. Et effectivement, c'est ce qui est observé dans l'expérience par rapport au groupe contrôle qui subit pas les chocs. Alors, on peut se demander si cette inhibition apparente n'est pas simplement le résultat de la fatigue de la plante. À force de la stimuler, elle ferme plus ses feuilles. Mais en fait, ce n'est pas le cas parce que quand on change la nature de la stimulation, donc par exemple, vous déchirez une feuille, vous la piquez, la plante est toujours capable de fermer ses folioles. Donc, elle a encore l'énergie pour le faire. Donc, c'est bien une inhibition. Et ce qui est plus intéressant, c'est que cette nouvelle réaction est gardée en mémoire dans l'expérience au moins pendant 28 jours. Donc, si vous l'avez entraîné, cette sensitive-là, à inhiber une réaction de choc, vous la laissez tranquille, puis 20 jours plus tard, vous la remettez dans ce petit ascenseur, elle va de nouveau avoir la même norme de réaction qu'elle a apprise. Tandis que si vous prenez une sensitive du groupe contrôle, ce ne sera pas le cas, évidemment. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, il y a une expérience un petit peu plus récente, en 2016, qui a été toujours menée par Gagliano et son équipe, qui voulait aller un peu plus loin et voir si on pouvait carrément créer de l'apprentissage par association et plus seulement de l'inhibition. Donc l'apprentissage par association, c'est typiquement le fameux chien de Pavlov. Hein. On lui apprend à associer le stimulus qui n'a pas de signification a priori pour lui, qui est le son d'une cloche, avec de la nourriture qui a pour le coup de la signification pour lui, et associer les deux. Et en l'absence de l'un, il est capable de réagir à l'autre. Donc en l'absence de la présence de la nourriture, rien qu'en entendant le son de la cloche qui était associé, il va saliver, il va avoir envie de manger. Et donc on peut se demander, est-ce que les plantes sont capables de faire des associations comme celle-là, et donc de réagir préférentiellement à un stimulus en l'absence d'un autre stimulus qui a du sens pour elle. Et donc, ce qui a le plus de sens pour les plantes, c'est évidemment... un des stimulus qui a le plus de sens, c'est évidemment la lumière. Et donc, l'idée, c'est d'associer à la lumière, qui est un stimulus positif recherché par la plante, un stimulus qui est a priori neutre, qui est un simple courant d'air, qui n'a pas d'effet positif ou négatif sur elle. Et puis, de voir si... Quand la plante est juste en présence du courant d'air et pas de la lumière, elle va se orienter préférentiellement vers le courant d'air parce qu'il était associé à la lumière. Donc, ça se fait grâce à ce dispositif en Y. D'un côté, la lumière et le vent, enfin le petit courant d'air, sont associés pour un groupe de plantes. De l'autre, ils sont dissociés. Puis après, on soumet les plantes juste au courant d'air. Celles qui ont appris, entre guillemets, enfin qui ont été testées pour associer les deux et puis les autres. Et on voit si on observe une différence entre les deux groupes. Et dans cette expérience, on observerait que les plantes qui ont le choix entre pousser à droite ou à gauche, à droite s'il y a juste un courant d'air et à gauche il n'y a rien en l'absence de lumière, elles vont plutôt opter pour le courant d'air si elles ont appris à associer les deux. Après cette expérience, c'est un peu controversé. Parce qu'il y a des scientifiques, des physiologistes qui ont contesté la méthodologie qui était employée, la façon dont le dispositif fonctionne, etc. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, il y aurait une différence statistique selon Gagliano et son équipe, qui ont publié ça quand même dans une revue scientifique. Mais les physiologistes avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter me disent que jusqu'à présent, ce n'est pas vraiment facile à reproduire, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Mais pourquoi pas, hein, parce que comme il y a de l'accoutumance, il pourrait y avoir de l'apprentissage par association. Alors, j'en viens maintenant aux conclusions. Je dirais que les expériences qui sont menées sur l'apprentissage, pour la plupart d'entre elles, sont concluantes. Peut-être pas les plus sensationnelles, comme la dernière, mais en tout cas, ça mérite d'être creusé. Donc, on voit qu'il y a en tout cas clairement de l'apprentissage. Et donc, si on associe l'apprentissage, comme certains biologistes le font, à raison, je pense, à une forme d'intelligence élémentaire, on peut dire qu'en ce sens, il y a une forme d'intelligence des plantes. Parce que c'est ce qui leur permet aussi de s'adapter à leur environnement. Après, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a aussi un usage abusif du coup, qui est fait de cette association entre adaptation et intelligence, puisque toute forme d'adaptation n'est pas nécessairement une preuve d'intelligence. Autre chose qui est intéressant à mettre en évidence d'un point de vue philosophique, quand on étudie cette question chez les plantes, c'est que ça remet aussi en perspective et en question un peu notre concept traditionnel d'intelligence, puisque ce serait plus nécessairement quelque chose qui serait dans la tête d'un organisme, donc à l'intérieur, mais plutôt à concevoir comme quelque chose en interaction avec le milieu. C'est-à-dire que l'intelligence, finalement, c'est un processus interactif entre un organisme et son environnement. C'est pas à la Descartes simplement quelque chose qui est intériorisé dans l'esprit de l'individu a priori humain. Alors évidemment, certains philosophes, biologistes, etc., contestent le fait qu'on puisse avoir une conception aussi libérale de l'intelligence et défendent quant à eux que des facultés comme la mémoire, la communication, l'intelligence, l'apprentissage, en ce sens, ne sont pas assez strictes pour parler vraiment d'intelligence. Et dans une conception peut-être qui est anthropomorphique, nous disent que il faut réserver le concept aux humains et peut-être aux animaux supérieurs dotés d'un cerveau parce que sur le modèle de l'intelligence, il faudrait avoir des aptitudes de l'intelligence humaine, pardon, il faudrait avoir des aptitudes plus strictes que n'ont pas les plantes, comme par exemple le langage ou la faculté à se représenter son environnement et pas simplement à réagir à son environnement, avoir des intentions, être conscient. Donc en fait, des facultés qui seraient beaucoup plus strictes. Évidemment, tout ça est discutable. Et puis, il y a aussi souvent des glissements de vocabulaire, hein, comme je vous ai peut-être des exemples dès l'introduction. Donc, pour vraiment conclure, je dirais que les hypothèses sur l'intelligence des plantes ont quand même certains mérites, peu importe la façon dont on se positionne sur le sujet, des mérites, on va dire, méthodologiques et heuristiques, et même éthiques. Ça a des vertus épistémologiques parce que ça stimule en fait la recherche, ça permet de réinterroger des concepts qui étaient séculaires et hérités dans notre tradition philosophique de façon quasi non interrogée. Et puis ça permet de susciter de l'intérêt quand même à l'égard du monde végétal, donc ça a aussi des vertus éthiques, dans le sens où ça nous oblige quand même aussi à reconsidérer le type de rapport qu'on a avec des êtres vivants non humains et même non animaux. Donc je pense que tout ça fait que ça crée un contexte assez intéressant. Voilà. Je vous remercie, j'ai terminé.
La question que j'avais tout à l'heure par rapport à donc cette plante qui s'adapte au rythme, qui suit le rythme de la lumière. Et donc là, je crois que vous parliez de tropisme, et on voit effectivement la plante qui suit la lumière. Quand la lumière s'éteint, donc elle revient à sa position initiale parce qu'elle se dit que le soleil va se lever de l'autre côté, évidemment. Mais donc on peut lui apprendre à faire l'inverse, quelque part, au bout d'un certain temps, si on fait, entre guillemets, se lever le soleil de là où il s'est couché. Et cette dernière factualité-là, est-ce que ça, c'est encore un tropisme ?
Ça, c'est une modification du rythme circadien, en fait. Donc, c'est un peu différent, mais c'est lié... en fait, on modifie le rythme circadien de la plante pour qu'elle adapte son tropisme, son phototropisme en conséquence, quoi.
Mais parce que là, dans la définition du tropisme, je croyais qu'il y avait la notion de... Il y a vraiment une... Enfin, je voyais ça comme une réaction directe, quoi, quelque part. Alors que sur l'apprentissage, là...
Oui, je vois votre question. En fait, quand elle suit la lumière, c'est un tropisme. Mais par contre, quand elle revient à sa position initiale, à mon avis, c'est plutôt une nastie, quoi. Puisqu'il n'y a pas de... c'est pas une nastie, c'est aussi un tropisme. Mais c'est vrai, c'est une bonne question, je ne sais pas trop, en fait. Est-ce que c'est quand même... à mon avis, c'est quand même une partie du phototropisme, parce que c'est par anticipation du stimulus lumineux. Donc, mais c'est en absence de stimulus, donc ouais, c'est une bonne question, je sais pas. Mais bon, c'est plutôt une question terminologique, quoi. Parce que, bon, ce qui est intéressant, c'est le phénomène en lui-même. Après, c'est vrai, au niveau de la classification, est-ce que c'est une astie, un tropisme ? Bon.
Dans les plantes qui ont fait du... qui ont fait de l'apprentissage, est-ce que on a est-ce qu'il y a des recherches sur le mécanisme de mémoire ? Là-dedans, enfin, est-ce qu'il y a un substrat physique ou biologique ou moléculaire qui fait que la plante retient entre guillemets l'information ?
Bien sûr. En fait, c'est au niveau d'une mémoire cellulaire. Donc, il y a des modifications moléculaires qui sont enregistrées. Il va y avoir des cascades moléculaires après qui vont différer. Oui, il y a des éléments épigénétiques, bien sûr, qui interviennent au niveau de la mémoire cellulaire des plantes. Et donc, si par exemple, ce qui est intéressant, si donc vous avez soumis une plante à certaines formes d'apprentissage, après vous faites une culture cellulaire, vous la reproduisez pendant plusieurs générations, et puis après X générations, vous pouvez continuer à avoir le phénomène qui est gardé en mémoire, parce que justement, c'est de l'ordre plutôt épigénétique. Et donc, ce n'est pas une mémoire qui fonctionne comme celle du cerveau, par un stockage de représentations mentales comme on a, et des neurones, etc. Donc c'est différent, mais en tout cas, ça peut fonctionner sur une durée assez longue. Et puis, les physiologistes ont étudié quels étaient les substrats justement moléculaires, niveau par exemple du calcium dans les cellules, etc., qui ont un rôle là-dedans, quoi.
Bonsoir. Alors j'ai une question un peu étrange. Je vais utiliser des mots humains. Est-ce qu'on a essayé d'arnaquer des plantes, mais est-ce que on a remarqué une forme de sens critique entre gros guillemets? Est-ce qu'il y a des plantes à qui on ne la fait pas? Je m'explique. On ferait une expérience où on essaye d'arnaquer une plante pour sur x choses, la lumière, le son, voilà. Et est-ce qu'il y a des plantes qui pourraient être capables de traiter l'information en se disant ah non, mais en fait c'est pas ça qu'il faut faire, ou enfin c'est très mal posé, mais j'ai pas les termes. Ouais, qui résisteraient à...
Est-ce qu'il y a des plantes qui aiment le rock?
Ben, en fait, il y a deux niveaux de lecture, je pense, à la question. Le premier niveau, c'est simplement, un peu comme Alice le suggère, quand on perturbe une plante dans son fonctionnement normal, quelque part, et qu'elle s'y adapte quelque part, on l'arnaque pas. Enfin, elle arrive à s'en sortir. Donc la plante qui modifie son rythme circadien, par exemple, ça marche aussi si vous faites des demi-journées. Vous pouvez lui faire des journées de 12 heures au lieu de 24 heures, et elle adapte son rythme en ayant des mouvements deux fois plus rapides. Et donc, quelque part, on pourrait se dire, si je fais ça, ma plante, elle va mourir. Mais en fait, elle s'adapte. Donc, en ce sens-là, si on veut avoir le vocabulaire un peu que vous utilisez, elle se fait pas avoir, quoi. Mais après, ce n'est pas évidemment dans le sens où certains animaux en éthologie sont capables de percevoir dans une certaine mesure les intentions de l'expérimentateur. Et comme les chats, c'est quelque chose que Vinciane Després explique dans ses livres, qui est une philosophe de l'éthologie, sont des mauvais animaux de laboratoire, parce que contrairement aux chiens ou aux rats, ils ont une espèce de, entre guillemets, sens critique qui fait qu'à partir du moment où ils se rendent compte qu'on veut les obliger à faire des choses, ils ne coopèrent plus, quoi. Bon, on n'observe pas ça chez les plantes, évidemment.
Est-ce que, c'est peut-être un peu anthropomorphique, comme on dit, est-ce que le fait qu'on reconnaisse aux plantes une mémoire cellulaire irrigue un peu les conceptions qu'on a chez l'être humain sur justement une mémoire cellulaire aussi chez les humains? Et on n'a pas seulement un cerveau, quoi.
Oui. Non, mais ça existe aussi, évidemment, ce type de mémoire-là existe aussi au niveau de l'épigénétique chez les animaux, chez les humains. Et donc, bien sûr, oui. Mais c'est juste que notre conception du comportement, de l'intelligence, etc., repose principalement sur la mémoire cérébrale. Tandis que chez ce type d'organisme-là, elle n'existe pas. Donc forcément, si on veut parler de mémoire, on va être obligé de parler uniquement au niveau cellulaire. Mais ça remet un peu en perspective des phénomènes qu'on peut observer même chez les animaux et les humains au niveau de ce qui se passe dans nos cellules, etc.
Peut-être de pas vulgariser, mais que du coup amplifier cette idée qu'il peut y avoir une mémoire cellulaire aussi chez les mammifères et pas uniquement cérébrale.
Oui, bien sûr, mais de façon même plus générale, il y a une mémoire du corps, par exemple. Donc il y a une certaine plasticité, en fait, qui fait qu'on reste marqué par les influences des événements directement dans la chair, quoi. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on est capable même de percevoir de façon consciente, mais qui existe. à travers l'alimentation, la lumière. Nous-mêmes, on est très sensibles à la lumière parce que nous-mêmes, on a des rythmes circadiens. Nous-mêmes, quand on change les heures, on s'en rend compte, en fait, qu'on a cette espèce de mémoire du corps qui fait que ça nous influence. Donc ça marche aussi, évidemment, chez les animaux et les humains.
Par rapport aux plantes qui ont la capacité de modifier la forme de leurs feuilles en fonction de la plante à laquelle elles collent, vous aviez mentionné, j'ai pas retenu le terme, une question de d'œil micromoléculaire ou quelque chose comme ça.
C'est les ocelloïdes, en fait.
Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu ce que c'est, cette hypothèse d'œil cellulaire ?
Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je sais que chez certains organismes unicellulaires, je me demande si ce n'est pas les dinoflagellés, je parle avec des pincettes, il y a une espèce d'organite dans les cellules qui serait une espèce de protorétine capable de capter de la lumière et de restituer une espèce de forme qui permet à l'organisme de s'orienter. Mais je ne suis pas un spécialiste. Et en plus, cette hypothèse est vraiment une hypothèse. C'est-à-dire, chez les dinoflagellés, je crois que c'est ça.
Oui,
ça a fait les diatomies
aussi.
Ouais, d'accord.
On peut entendre l'explication du
microbiologiste. Sur ce que c'est au niveau cellulaire, je ne peux pas dire. Je sais juste qu'effectivement, ça existe chez ces deux organismes-là et chez les méduses aussi. Mais c'est principalement juste une histoire de... Chez les méduses, c'est peut-être un peu plus complexe parce qu'elles sont capables de dire il y a de la lumière, il n'y a pas de lumière, il y a un peu, beaucoup, etc. Et de dire, en gros, il y a une forme au-dessus de moi ou pas, mais c'est tout. Je ne sais pas à quel point les plantes se rapprochent de cette complexité.
En fait, ça a été bien mis en évidence chez ces organismes-là. Donc on sait que les ocelloïdes, ça existe. Mais après, c'est une pure hypothèse de dire ah, peut-être chez Bochilia trifoliata, ça existe aussi. Parce que ça, on ne l'a pas mis en évidence. Certains scientifiques, il y a un article qui a été écrit là-dessus qui dit « Ah bah peut-être que c'est ça ». Mais bon, là, on ne sait pas.
Ok, merci.
J'ai aussi une question, j'en profite. Est-ce que, parce que souvent quand on parle d'intelligence, on parle au niveau individuel. Et du coup, est-ce qu'il y a des différences individuelles entre les plantes qui ont été observées ?
Oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait, je pense que c'est aussi, si on veut vraiment parler d'intelligence, là que réside un des nœuds du problème. À mon sens, pour pouvoir vraiment parler d'intelligence et qui repose sur un apprentissage, ça veut dire qu'il doit avoir aussi de la capacité de l'organisme de se tromper. Sinon, ce n'est pas de l'intelligence, c'est l'exécution d'un programme finalement. Donc, c'est de nouveau une différence fondamentale entre le vivant et la machine. La machine ne se trompe pas, elle exécute son pas. De nouveau, sauf cas particuliers, des algorithmes auto-apprenants, des choses comme ça. Mais a priori, une machine ne se trompe pas, elle exécute son programme. Un organisme vivant, confronté à une situation nouvelle, il peut réagir plus ou moins efficacement, prendre entre guillemets des bonnes ou des mauvaises décisions. Et a priori, ceux qui prennent les meilleures décisions, qui apprennent le mieux de leur situation, sont ceux qui seraient les plus intelligents. Et ça, au niveau des normes de réaction, des facultés d'adaptation, on peut l'observer aussi chez les plantes. Parce que comme le montre l'expérience, par exemple, de Gagliano, c'est toujours de l'ordre de la statistique. C'est-à-dire que statistiquement, le groupe qui est étudié tend à réagir, qui a été entraîné, tend à réagir de telle ou telle manière. Mais certains individus réagissent probablement de façon plus marquée que d'autres. Donc c'est toujours une adaptation qui est idiosyncratique, donc propre aux individus. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer si on veut essayer d'appliquer le concept d'intelligence au monde vivant de façon très générale.
Je crois que c'est la première fois qu'il y a un sceptique Sinopop qui me retourne un peu autant le cerveau, parce que à la base j'étais venu en mode « bon, on sait très bien qu'on ne peut pas parler d'intelligence des plantes, et c'est plutôt un terme qui est employé dans le New Age et tout ». Sauf que j'étais trop naïf et je ne pensais pas qu'il y avait des plantes qui étaient capables de trucs aussi extraordinaires que ce que tu as présenté ici. Donc je suis content d'avoir un peu révisé mon avis. Mais alors du coup, si j'ai bien compris, effectivement, toi, tu es plutôt contre l'emploi de ce terme. Est-ce que tu ne penses pas que pour une question de vulgarisation et d'éviter justement de faire des parallèles qui peuvent être un peu dangereux, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement inventer un autre mot, à moins qu'il existe déjà et qu'il faudrait qu'on l'emploie et que tu connais peut-être, je ne sais pas. Mais...
Je ne suis pas contre l'usage du terme. Je suis contre l'usage abusif ou non clairement défini du terme. Mais à partir du moment où on le circonscrit avec une définition claire qu'il y a des aptitudes qui sont objectivement démontrables dans le monde végétal, ça ne me pose aucun problème que certains biologistes du végétal disent il y a ce type d'intelligence chez les plantes. et ça évite justement d'entrer dans tout cet autre débat de vocabulaire où finalement certains disent « Ah, parce que c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé ici, mais que j'ai mis en évidence aussi dans mes recherches, c'est qu'il y a une espèce de duplicité du vocabulaire et une espèce de, à mon avis, controverse un peu stérile qui s'est faite pour des raisons idéologiques entre des biologistes animaux et végétaux ou des philosophes et des biologistes, et où on a sans cesse créé une espèce de duplicité du vocabulaire où on dit... par exemple, dans les débats, les controverses par articles interposés, certains disent « Ah ben, il y a de la mémoire chez les plantes », et d'autres vont dire « Ah non, c'est pas de la mémoire, c'est juste du stockage d'informations », ou alors ils vont dire « Bah, c'est pas de l'apprentissage, c'est de la plasticité adaptative », ou alors... parce que, et donc, en fait, on peut démultiplier en fait, le vocabulaire, si on veut, pour parler de phénomènes qui sont très proches en disant ben, « finalement, ce n'est pas la même chose parce que les mots ne sont pas les mêmes ». Et ça, c'est un héritage de notre tradition philosophique qui crée une fracture vraiment forte entre d'un côté le monde animal et les humains et de l'autre le monde végétal. Et donc, on tend à tout le temps essayer de défendre cette différence ontologique en spontanément disant « non, ce n'est pas la même chose, du coup, on va utiliser des mots différents ». Mais à l'inverse, il y a aussi un danger qui est celui d'avoir un usage trop libéral des termes et dire ben voilà, j'utilise les mêmes termes et donc ça veut dire qu'il y a les mêmes phénomènes derrière. Et donc je dis il y a de l'intelligence et donc il y a des émotions chez les plantes. Ou... Et donc ça, c'est la pente glissante, quoi. Et donc en fait, il faut arriver à trouver l'équilibre entre ces deux tendances-là. Entre parfois la vulgarisation un peu abusive qui va dire ben, les plantes sont sensibles donc elles sont conscientes. Pour caricaturer, et puis d'autres qui vont dire non, en fait une plante c'est une machine, elle n'a pas de mémoire, c'est juste du stockage d'informations et point. Voilà.
Donc une position prudente pour toi, ce serait de dire on peut parler d'intelligence chez les plantes, mais alors il faut faire une petite définition de ce qu'on entend par ça,
ouais,
avant de continuer après le débat.
Ouais. Okay.
Est-ce que du point de vue de l'efficacité du scepticisme, quand on n'a pas le temps de faire une définition, ce serait pas intéressant de dire le truc le plus dingue que les plantes savent faire. Du coup, dire que le truc le plus dingue que les plantes savent faire, c'est adapter le rythme circadien et adapter la forme de leurs feuilles en fonction de l'environnement, mais elles ne savent pas avoir de l'empathie pour...
En fait, de nouveau, tout dépend, parce que l'adaptation de rythme circadien, toutes les plantes peuvent le faire. La modification des formes des feuilles, c'est propre à une seule espèce. C'est une exception, c'est Bocchilia trifoliata. Et donc, ça pose le problème de la généralisation. Et comme je disais, c'est pour ça qu'en introduction, je vous présentais la diversité du monde végétal, parce qu'on a tendance à généraliser parfois de façon un peu abusive. En fait, en laboratoire, quand on étudie les comportements des animaux, ben, on va étudier les rats ou les chimpanzés. Mais quand on a fait une expérience qui a démontré quelque chose chez le rat, on ne va pas dire « tous les animaux sont capables de ça ». Et par contre, dans la littérature vulgarisée sur les plantes, on a un peu tendance à faire ça. Donc il y a des expériences qui ont été faites sur des phénomènes de communication chez certaines plantes, et on va dire « Ah, les plantes se parlent, enfin, le règne végétal communique, etc. » Et en fait, c'est beaucoup plus subtil. On peut évidemment suspecter que si certaines plantes le font, bah, a priori la plupart le font, pour des phénomènes, des facultés assez importantes et significativement pertinentes au regard de l'évolution, par exemple au niveau du traitement de la lumière et de la gestion des rythmes circadiens. Par contre, au niveau de la perception des formes, qui est un truc vraiment typique et pour lequel on n'a pas d'explication sous-jacente, bah, c'est beaucoup plus problématique. Mais bon, ton argument, ça revient un peu à dire qui peut le plus peut le moins. Mais ce n'est pas toujours vrai.
Merci du rappel.
À un moment, tu parlais des vertus d'aller observer ces choses-là chez les différentes plantes, les vertus épistémologiques sur le concept d'intelligence. Est-ce qu'il y a des travaux qui élargissent déjà ce concept justement d'intelligence ? Parce que ça me vient spontanément en tête, mais j'ai l'impression que du coup, ce serait une forme de continuum avec des actions les plus simples possibles, des actions peut-être entre guillemets de haut niveau, comme justement la conscience de soi, etc. Et que le concept d'intelligence, on l'utilise peut-être à tort dans le cadre des plantes, comme on dirait en anglais, for lack of a better word, parce qu'on n'a pas de meilleur mot pour l'exprimer pour l'instant. Donc on entre pomorphise nos concepts et on les attribue à des plantes, alors que peut-être qu'effectivement un pinaillage entre scientifiques à coup de papier pour être intéressant, pour trouver les justes mots, pour définir ce type de choses et savoir quelle est la portion d'inné, d'acquis dans ce genre de comportement potentiel.
En fait, ça renvoie à la fois... ma réponse est à la fois la même que pour la question qui était posée précédemment. Est-ce que c'est un débat terminologique uniquement ou pas? Donc, il y a évidemment par article interposé, comme je le disais, certains qui disent c'est de l'intelligence, d'autres qui disent non, parce que voilà. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que philosophiquement, la raison même d'être de ces débats renvoie à des représentations de ce que c'est le vivant qui sont beaucoup plus fondamentales. Et c'est ça qui est aussi intéressant à essayer d'étudier. Et ces représentations, c'est est-ce que vous avez par exemple une vision plus continuiste du vivant et que vous êtes prêt à admettre que même un être humain partage des facultés héritées biologiquement d'un ancêtre commun avec les plantes? Et est-ce que ça fait partie en fait aussi d'une représentation éthique des rapports au vivant que vous pouvez avoir? Parce que quelque part, tous les êtres vivants de la valeur par rapport à des facultés qu'ils auraient précisément parce qu'ils sont vivants, etc. Et dans quelle mesure ça conditionne du coup après la façon dont vous parlez en fait ces organismes-là. Donc si vous êtes un exploitant forestier qui a une vision hyper économique, etc., du monde végétal et tout, vous allez être très frileux à dire que les plantes sont intelligentes, elles communiquent entre elles et tout ça. Par contre, si vous êtes, peut-être hindouiste ou quoi, ou que vous avez déjà culturellement, contrairement à ce qui se fait en Occident, un rapport au vivant beaucoup plus intégratif, etc., dans la façon de les intégrer moralement à votre vie culturelle en général, vous allez avoir une sensibilité différente qui va vous rendre aussi, même en tant que scientifique, peut-être plus enclin à avoir une conception intégrative du vocabulaire. Donc, c'est à la fois une question technique de où s'arrête la définition, etc., mais en fait, ça renvoie à un cadre philosophique beaucoup plus général.
On va s'arrêter là pour les questions et on continuera dans le pub autour d'un verre. Donc, pas peu d'émotion.